Sur le petit écran, que ce soit la télé ou celui de l'ordinateur, nous sommes sans cesse bombardés par les tragédies et les détresses qui surviennent aux quatre coins du monde. Pour survivre à ces émotions fortes, on est obligé de s'enfermer dans un cocon et fermer les yeux devant ceux qui souffrent. Pourtant, les Écritures nous ordonnent de ne pas les oublier. Je continue à lire dans le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Ayez le souci de ceux qui sont en prison comme si vous étiez enchaînés avec eux et de ceux qui sont maltraités puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Verset 3. La véritable patrie des croyants est le royaume des cieux, mais tant que je serai dans un corps, je connaîtrai de multiples souffrances liées à ma condition humaine. La compassion est une expression concrète de l'amour et il est plus facile de s'identifier à la situation douloureuse de quelqu'un quand on est soi-même passé par la même expérience. Comme tout le monde, j'ai été malade, ce qui fait que quand je vais voir une personne sur un lit d'hôpital, je peux compatir à sa douleur. Par contre, je n'ai jamais fait de la prison, du moins pas encore. Et pourtant, il ne m'est pas trop difficile d'imaginer les restrictions qui sont imposées à une personne incarcérée. Et puis, lui rendre visite permet de rompre sa solitude et lui apporte un peu de chaleur humaine et du réconfort. Jésus a dit « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Envers quelqu'un qui est dans le besoin, on peut faire preuve de compassion de plusieurs manières. Je peux être présent sans qu'il soit même nécessaire de parler. Je peux intercéder pour lui et je peux l'aider de manière concrète en retroussant mes manches ou avec des espèces sonnantes et trébuchantes. L'apôtre Paul écrit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Fin de citation. Je continue le texte. « Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Verset 4. L'auteur donne ici deux enseignements très différents. Premièrement, il demande à ce qu'on respecte les gens qui se marient. En effet, à cette époque, certains prônaient la vie ascétique et le célibat en particulier, comme étant spirituellement supérieur à l'état de marié. Au IIIe siècle, Origène, le plus grand théologien de l'Antiquité et un père de l'Église, se fit castrer, croyant qu'ainsi il pourrait mieux servir le Seigneur. Pourtant, il connaissait parfaitement les écrits de l'apôtre Paul qui avait écrit que dans les derniers temps des apostats interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Le mariage a été institué par Dieu et Jésus l'a honoré d'une part de sa présence en se rendant aux noces de Cana et d'autre part en y faisant son premier miracle. Et dans le Nouveau Testament, le mariage sert à illustrer la relation du Christ avec son Église. Le second enseignement de ce passage concerne les relations sexuelles qui, on y soit qui mal y dise, sont une création de Dieu et le privilège d'un homme et d'une femme qui se sont publiquement engagés l'un envers l'autre dans ce qu'on appelle le mariage. En dehors de ce cadre, c'est de la débauche. Aujourd'hui, peu de gens se préoccupent de la morale au point où une majorité de nos contemporains considèrent l'homosexualité comme un choix personnel et non plus comme une déviance. Le laisser-faire de notre société pervertie tolère tout jusqu'à encourager les jeunes à faire leurs expériences sexuelles. À une grande exposition sur la publicité, il y avait un catalogue des pubs qui avaient marqué leur époque. Un opérateur de téléphonie mobile proposait une offre promotionnelle intéressante intitulée « Sans abonnement et sans engagement ». Jusque-là, rien de très particulier, sauf en ce qui concerne le sujet de cette opération marketing qui était la Saint-Valentin et le public ciblé, les jeunes. On veut tout, tout de suite, mais il faut que ce soit du light, sans substance, parce qu'on ne tolère plus les contraintes et surtout pas s'engager. Peu après la création d'Adam et Ève, et avant même qu'ils ne désobéissent à leur créateur, Dieu leur a dit « Un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » C'était l'ordre initial de Dieu et non pas un plan B qui aurait été mis en place pour rattraper une situation catastrophique due à la faute de nos premiers parents. Dès la création, la sexualité a été prescrite à un homme et une femme qui se sont engagés l'un envers l'autre en quittant le berceau familial et leur passé d'enfant. D'abord, le couple se forme pour la vie et ensuite seulement, ils ont des relations sexuelles et s'attachent l'un à l'autre émotionnellement et physiquement pour former une nouvelle unité familiale. Ce nid peut alors recevoir des enfants qui pourront grandir et devenir matures avant de reproduire le modèle mis en place par le Créateur. Le mariage et la vie de couple est un cadre qui doit permettre à l'homme et la femme de construire leur vie personnelle, affective, sexuelle et aussi spirituelle. C'est le scénario que Dieu avait prévu et mis en place afin que les êtres humains trouvent leur plein épanouissement. Aujourd'hui, et curieusement, ces étapes se font à l'envers. Un garçon et une fille se rencontrent et sans se connaître, ils couchent déjà ensemble, quelquefois dès le premier soir. Et au nom de la sacro-sainte liberté, ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre et ne changeront rien à leur mode de vie. On peut toujours violer les lois morales que Dieu a établies, mais on ne peut pas échapper aux conséquences, comme par exemple les foyers brisés par des relations extra-conjugales et les enfants qui payent les pots cassés par leurs parents qui se quittent. Il y a aussi la croissance inquiétante des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida, les violences passionnelles et la multiplication du nombre de personnes défavorisées, dont des enfants, qui deviennent esclaves sexuels pour satisfaire un certain tourisme dépravé. Si on considère ce qui, à l'époque d'Abraham, est arrivé aux villes de Sodome et Gomorre, tout porte à croire que notre monde est mûr pour le jugement. Je continue l'épître aux Hébreux. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Aussi pouvons-nous dire avec assurance « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes ?» Versets 5 et 6. Lorsque quelqu'un est prêt à reconnaître ses fautes devant Dieu, il est très rare qu'il mentionne la convoitise ou la cupidité parce que la plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas suffisamment riches pour se rendre coupables de ce péché. Il est vrai qu'avoir une bagnole de gamme moyenne n'a rien de spectaculaire, surtout qu'on en a besoin pour aller au boulot. Mais en réalité, la cupidité ou la convoitise est une attitude d'esprit qui ne se mesure pas à la quantité ou valeur de ce que j'engrange. Le simple désir d'acquérir est une faute, avant même de posséder l'objet convoité. On a demandé à quelqu'un d'immensément riche combien il lui fallait encore pour être enfin satisfait. Il a simplement répondu « un peu plus ». Cette boutade n'en est pas vraiment une. Tout le monde ou presque a entendu parler de John Rockefeller qui créa la société pétrolière Esso. À partir de 30 ans, il contrôlait la totalité de la production pétrolière des États-Unis. Jeune adulte, un ami lui avait demandé combien d'argent il voulait gagner et il avait alors répondu $1 million. Après avoir obtenu ce million, le même ami lui a posé la même question et il a répondu $1 million. Le désir de posséder est comme une éponge insatiable. Elle suit une courbe qui va en s'accroissant alors que la satisfaction suit un tracé inverse. Salomon ne connaissait pas Rockefeller et pourtant il a prophétisé sur lui et bien d'autres manias quand il a dit « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus ». L'amour de l'argent est une convoitise très répandue parce que celui qui est plein aux as peut pratiquement tout se permettre, non seulement tout acheter, mais aussi violer la loi justement à cause de ses richesses. Le croyant qui se livre à un tel vice est un idolâtre puisque l'argent prend la place de Dieu dans sa vie. D'ailleurs Jésus a dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres ». Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Les Écritures rapportent l'histoire de plusieurs personnes qui ont succombé à l'amour de l'argent et qui ont subi un jugement sévère. Je cite pour mémoire Akan qui s'est emparé d'une part du butin de Jéricho. Géhazi, serviteur du prophète Élisée, qui a trompé l'officier syrien Naaman afin de lui soutirer tout ce qu'il pouvait, Ananias et Saphira, qui ont menti aux apôtres, et enfin Judas, qui était voleur et a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. L'apôtre Paul nous met en garde contre la cupidité quand il écrit « L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux ». Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Il n'y a pas de mal à être riche, mais soupirer après l'argent et se confier en lui est un péché d'idolâtrie. La cupidité se manifeste sous des aspects différents. On peut aimer l'argent et être pauvre ou posséder des louis d'or juste pour le plaisir de les compter et recompter comme Picsou, l'oncle de Donald. Mais la plupart des gens désirent l'argent afin de pouvoir acheter les objets qu'ils convoitent. Pour d'autres, c'est une façon de se grandir à leurs propres yeux et à ceux d'autrui. La convoitise engendre alors d'autres travers. Si mon voisin s'achète une grosse cylindrée et que j'en suis malade, je suis au moins envieux et peut-être jaloux. En toutes circonstances, le croyant est exhorté à se contenter de ce qu'il a, ainsi qu'à faire confiance à Dieu qui a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Concernant ce qui est exigé d'un responsable d'Église, l'apôtre Paul écrit que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. La crise financière de l'automne 2008, déclenchée par la cupidité des financiers de Wall Street, a prouvé la véracité du proverbe qui dit « À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. » L'Épître aux Hébreux a été écrite quelques années seulement avant la destruction de Jérusalem par les Romains. Les Juifs, mais aussi les croyants de la Palestine, allaient subir une dure épreuve. Ceux qui avaient cru en Jésus avaient besoin qu'on leur rappelle que Dieu ne les abandonnerait pas et, malgré les événements tragiques qui allaient arriver, ils pourraient dire « Le Seigneur vient à mon secours » Je n'aurai pas de crainte que pourraient me faire les hommes. » Fin de citation. Je continue le texte. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Verset 7. Après des exhortations morales, viennent des recommandations d'ordre spirituel. De toute évidence, ces paroles s'adressent à des Hébreux qui fréquentent l'Église depuis déjà longtemps et qui sont donc de véritables croyants. Les bergers qui par leur vie donnent le bon exemple de conduite à leur public méritent qu'on les imite, qu'on les respecte et qu'on cherche conseil auprès d'eux. Si par exemple j'ai des difficultés à maîtriser ma langue, j'irai voir quelqu'un qui est posé et réfléchi dans ses paroles, plutôt qu'une personne au sang chaud qui s'emporte facilement. Je continue l'épître. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Verset 8. Dans l'éternité passée, Jésus occupait déjà une position proéminente due à son rang. Actuellement, il est assis à la droite de Dieu exerçant une autorité qu'il a méritée par son œuvre rédemptrice en faveur de l'humanité. Dans l'éternité future, il sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs et gouvernera en tant que monarque absolu et bienveillant. En ce qui concerne le parcours de Jésus sur terre, il a déjà eu lieu et est inscrit dans l'espace-temps. Il est né à Bethléem et a grandi à Nazareth. Il a parcouru les chemins poussiéreux de la Palestine, puis est mort dans les environs de Jérusalem. Il est ressuscité et est remonté dans les cieux où, revêtu de gloire, il occupe la plus haute position de l'univers. Par contre, Jésus est immuable en ce qui concerne sa personne, son caractère et ses attributs. Tous les croyants sous la Nouvelle Alliance ont la même qualité de foi et ils peuvent imiter ceux qui les ont précédés. Jésus était Dieu fait homme afin de se mettre à mon niveau. Il a choisi de s'identifier à la nation juive et de passer toute sa vie en Palestine, un endroit simple qui n'avait rien de particulier. Il n'est pas allé à Rome, le siège de l'Empire, de sa pompe et de sa puissance, et il n'a jamais visité Athènes, le centre culturel du monde antique. Par sa personnalité, il attirait les foules et les enfants se sentaient en sécurité avec lui. Les gens aimaient Jésus, non pas parce qu'il était un homme parfait, mais à cause de son humanité parfaite, parce qu'il était parfaitement humain. On reconnaissait en lui ce que, au fond de soi, chacun aimerait être. Mis à part notre tendance à faire le mal, Jésus est un avec nous. Personne dans cet univers ne peut établir une relation intime avec moi comme lui. Son enseignement, par contre, en a froissé plus d'un. L'apôtre Jean écrit qu'au début de son ministère et suite à ses paroles, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Au fil du temps, leur nombre s'est restreint et bien peu lui restèrent fidèles jusqu'à la fin. Même Pierre était louvoyant. Il a d'abord essayé de dissuader Jésus d'aller à la croix avant de le renier. Jésus ne cherchait pas la popularité, mais s'intéressait à chaque individu en particulier. Dans la parabole des 100 brebis, il dit « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ?» Fin de citation. Quand, vers la fin de son ministère, Jésus s'est rendu à Jéricho, une foule s'était amassée au bord du chemin, au point où Zachée, qui était de petite taille, a dû monter sur un platane afin de le voir. Mais Jésus, sensible aux besoins des individus, s'est arrêté rien que pour lui et l'a fait descendre pour lui parler. En Jésus se trouvaient la grâce et la vérité, l'humilité, la majesté, la douceur et la force. Il est devenu homme pour révéler Dieu et il était donc toujours prêt à défendre son honneur. Il a montré aux hommes qu'il faut respecter sa sainteté. Un jour qu'il est entré dans la cour du temple, il a vu comment on avait transformé ce lieu en repaire de voleurs. Alors il s'est fait un fouet et a chassé les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs de changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Fin de citation. Moi aussi, je trouve choquant toutes ces pacotilles clinquantes qui se vendent dans les enclaves religieuses touristiques. On a beau dire que ce sont des souvenirs et objets de dévotion, ça reste du commerce de bas étage qui consiste à faire du fric sur le dos de Dieu. Je m'étonne qu'aucun pape ou prélat n'ait mis un holà à ce genre d'activité. Je continue le texte. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Verset 9. Depuis le début de l'Église, les faussaires spirituels foisonnent. L'apôtre Paul avait constamment maille à partir avec les judaïsants qui prêchaient que pour être sauvés, la grâce ne suffisait pas. Il fallait également observer les prescriptions de la loi de Moïse. Les Hébreux à qui cette épître s'adresse couraient le même risque. Les faux apôtres qui enseignent une erreur flagrante ne sont guère dangereux parce qu'on les repère de loin, mais le plus souvent, les hérétiques emballent leur poison dans des vérités bibliques. L'apôtre Paul dit que ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ et que ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable n'a pas à influencer les croyances de ce monde puisqu'elles sont déjà fausses. Ce qu'il veut est pervertir les vérités de la parole de Dieu et surtout la saine doctrine de la grâce en Jésus-Christ. Il faut donc que les croyants soient extrêmement vigilants, qu'ils aient du discernement afin de ne pas se laisser piéger par les apparences et les bons sentiments qui peuvent facilement couvrir un piège. Les Hébreux avaient été habitués à respecter toutes sortes de règles alimentaires. Une fois devenus croyants, il leur était très difficile de les abandonner et devenaient une proie facile pour les judaïsants. Tout au long de son ministère, l'apôtre Paul a été confronté à ce genre de problème. En fait, imposer n'importe quelle règle alimentaire pour des raisons religieuses va à l'encontre de la parole de Dieu.